Vous écoutez RTL.
Nightlist. RTL. Éric Jean-Jean.
La première heure.
Oui, bien sûr, j'ai connu Barbara, c'est vrai.
Eh ben voilà, vous l'avez entendu, c'est même pas la peine que je vous dise bonsoir. C'est la première heure que nous faisons en 2016. Je te présente tous mes voeux, Stéphane.
Merci, oui, bonne année.
Mais oui, bonne année. Comment ça va?
Ben, moi, ce qui m'angoisse un peu, c'est que c'est bientôt la galette. Mais la galette des rois, je veux dire, mais sinon, bah oui. À part ça, mais ça va. Tout va bien.
Mais ouais. La galette des rois, c'est bien, non?
Je ne sais plus comment j'ai passé Noël, parce que c'était il y a trop longtemps.
Et puis j'étais sous.
Oui, mais j'arrive plus à être sous comme on est sous dans les films, tu sais, où quand on est allongé par terre et qu'on fait. Je suis pas sous comme ça, je suis que fatigué le lendemain.
Ah oui, c'est pas. Oui,
car
pareil,
dans une
l'âge.
Cuite, le mieux c'est quand même la veille.
Voilà, c'est la phrase de l'année par Stéphane Sanseverino. Ouais. Il y a aussi les cuites flamboyantes, tu sais, je pensais à ce film avec Jean Gabin.
Ah oui, genre la tournée dans Paris.
Et Jean-Paul Belmondo. C'est en Normandie, ça s'appelle.
Ah bah oui, c'est Un singe en hiver.
Un singe en hiver, merci. Ouais.
Quand tu veux un titre de film, tu m'appelles. Hein, ouais, 06 voilà, bah 82 38 38 38 38.
Très bien, merci. Sanseverino, donc vous l'avez reconnu. Ça fait longtemps qu'on l'aime, ça fait longtemps qu'il vient sur RTL. Et alors là, aujourd'hui, ça tombe bien parce que autour de la semaine à venir, il y a un gros enjeu pour toi, puisque demain c'est la sortie, on va dire, de la deuxième partie de Papillon, puisque c'est la BD qui arrive.
Alors, ouais, exact.
Papillon, c'est un album, d'abord un album concept, oui, dont on va parler, et puis là arrive la BD. Alors au début, ça devait être un livret, c'est ça Stéphane?
Au début, j'avais demandé à Sylvain Dorange, qui est le dessinateur, ouais, de cette BD, de faire quelques dessins genre BD pour illustrer le livret du disque. Ouais. Le livret, c'est la petite feuille qu'on met dans les albums. Là.
Mais on ne sait plus maintenant, on télécharge illégalement, tu sais bien.
Ah musique. Mais oui, c'est vrai. Donc, alors, oui, mais on peut les charger aussi, les livrets. Il y a des liens.
Bah non, pas illégalement quand même.
Ah non, pas illégalement, mais on peut les charger. Je demande à Sylvain Dorange, qui est mon voisin en plus. C'est-à-dire que je connaissais son travail et tout. On s'est rencontrés en emmenant nos enfants à l'école. Ouais. Sur la route du retour, on parlait un peu, etc. Et puis, j'aime beaucoup ses dessins et tout. Je lui demande de me faire quelques pages de BD pour faire style BD. Et en fait, dans ma maison de disques, enfin qui m'appartient pas, mais dans la maison de disques dans laquelle je suis
affilié.
Je suis affilié, exactement, je cherchais le mot. Il y en a un qui a dit, mais si on faisait une BD? Et alors en fait, l'idée de la BD est partie comme ça. Ouais. Ils ont mis un temps plutôt assez record. Pas pour faire les dessins. Le pire, c'est surtout de trouver un éditeur et quelqu'un qui va payer l'objet, le fabriquer, hein, comme un producteur de disques. Mais là, c'est un producteur de BD. Donc cet éditeur de BD, ils ont mis du temps à le trouver. Et pendant qu'ils cherchaient, ils commençaient à dessiner, ils commençaient le scénario, etc. Parce que une BD se fait un peu. Quand je dis il, je vais t'expliquer exactement qui c'est. C'est donc Cécile Richard, la scénariste.
On a le droit de dire qui c'est vraiment.
Et oui, c'est ma femme.
Mais
c'est
ta meuf.
Sûr. Ouais, c'est ma meuf. Quoi. Vas-y. Il est interdit en parler. Donc Cécile et Sylvain Dorange, qui commençaient le boulot, ouais, eux font des BD de cette manière. Elle écrit le scénario et ensuite Sylvain fait les dessins.
Ouais. Alors Stéphane, il y a quand même un enjeu très particulier pour cette semaine.
Il y a toujours un enjeu.
Qui commence. Non, mais parce que ton album est sorti fin octobre, évidemment. Alors la promo a été.
Oui, elle a été arrêtée, bien sûr, par les événements.
Ouais,
bien
les
sûr,
événements. Oui. Et donc, ouais, ça veut dire que c'est une nouvelle naissance pour cet album, qui est un album concept que tu réalises.
Exact.
Un nouvel album concept, c'est pas le premier. C'est une nouvelle naissance pour cet album concept, avec en plus la BD qui va nous amener à une tournée qui sera de nouveau sur les routes, parce que ça a commencé en novembre.
Ouais, et ça va finir en automne prochain. Là.
Donc l'enjeu, en fait, c'est enfin de pouvoir parler, on l'espère calmement, de ce que tu as pu fabriquer pendant cette année 2015.
Alors, sachant que tout ça, c'était prévu, évidemment, plus à l'avance que ça. C'est évidemment, personne ne prévoit l'actualité. Donc, il y a toujours un moment dans un travail sur une sortie d'album où il y a une relance. C'est-à-dire, tu sais, quand on fait des espèces de coffrets ou des fausses compiles, des espèces de trucs comme ça, les gens le savent, hein, avec les morceaux qui sont pourris et qu'on met à la fin du disque, avec genre, ça c'est pour les fans, et ben, pour reparler d'un disque, on en remet toujours un deuxième ou un autre projet ou produit en vente. Donc là, ce truc-là, il est d'abord pour expliquer cette BD, elle est faite pour expliquer ce qui n'est pas dit dans les chansons, et aussi commercialement, c'est fait pour relancer le et qu'on reparle un peu d'un album, parce qu'un album on en parle pendant à peu près un mois. Ensuite, les albums maintenant ont des durées de vie assez courtes en fait.
Ah bon?
Ouais, bah c'est à dire que
la durée de vie de la tournée quand même un peu, Stéphane, non?
Pas oui trop. Oui, la durée de vie de la tournée, mais des fois il est plus dans les bacs avant la fin de la tournée. Suivant, moi je joue pas dans des villes où il y a des magasins de disques partout.
Ah oui.
Il y a des fois, de temps en temps, ça dépend des endroits quoi.
Ouais.
Mais je veux dire que avant tout c'est par plaisir artistique et ça sert bien la relance.
Oui, c'est pour des réseaux artistiques.
Voilà, exactement.
Très bien, on va écouter une première chanson. On reparlera de cet album tout à l'heure et surtout de son concept et de l'histoire, parce que ça part d'une vraie histoire. Et puis on va aussi parler de ton rapport à la promo et de ta personnalité médiatique. Et je vais commencer par un disque. Alors je croyais que j'allais te faire plaisir, mais je suis pas sûr du coup maintenant. Écoute ça. La Grange, ZZ Top sur RT.
Oui, bah, le morceau phare de ZZ Top, il y en a plein d'autres. Hein. Rumors spread around, and it takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
I'm on.
Stéphane Sanseverino, ouais. Non, ça te parle de ZZ Top ou pas?
Ah bah, à fond, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'aime bien les premiers disques de ZZ Top, c'est-à-dire jusqu'à Exterminator, un truc comme ça. Il y a un disque comme ça là.
Ouais. En horreur, c'est fini en horreur, ouais, avec la grosse voiture.
Avec la grosse bagnole, ouais, ouais. Là, c'est le début des clips avec les meufs en talons et tout là. Non, pas à poil. Des meufs sexy en robe moulante et en talons dans des vieilles bagnoles
américaines.
Pleine de tuning, on dit. Oui, moi j'aime les premiers albums de ZZ Top, évidemment. Ah, dans les trucs derniers, il y a des trucs bien aussi, là. Il y a la dernière tournée. J'ai été les voir et en fait ZZ Top ils jouent avec des trucs que les gens connaissent pas, peut-être pas. C'est des boucles, c'est-à-dire que des fois Billy Gibbons il joue un accord de guitare puis t'en entends trois. Alors c'est pas qu'il a trois mains, c'est qu'il y a un mec qui appuie sur un bouton et il envoie deux autres guitares qui ont déjà été jouées sur une petite bande, un peu comme un genre de playback. Et alors, moi, c'est ce qui m'intéresse moins quand les groupes jouent avec des boucles et en playback. Je suis pas très fan. J'aime bien quand ça joue en direct.
Mais parce qu'il existe aussi des artistes qui se mettent eux-mêmes en boucle.
Oui, bien sûr. Oui, ben, c'est-à-dire que tu les vois enregistrer leur playback.
Exactement,
en fait.
Ouais.
Bah oui, pour moi, c'est pareil. C'est une prestation. Ouais.
Non, mais Stéphane Echer, par exemple, a fait une tournée géniale où il est tout seul avec des machines et il enregistre des instruments et il superpose et il joue.
Ouais, exactement.
En direct, tu vois, c'est pas si. Mais bon, là.
Oui, non, mais il y a une prouesse technique, mais la prouesse technique. Non, puis Stéphane Echer, c'est un grand garçon. Il sait ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est pas du playback. Il a pas embauché des machines pour ne pas embaucher des musiciens. C'est parce que le son de la boucle l'intéresse et tout. Après, il y a plein de gens qui jouent dans les cafés qui bouclent de leur guitare ou leur clavier et tout parce que comme ça ils peuvent faire le concert tout seul. Économiquement, c'est complètement intéressant.
Mais Billy Gibbons peut-être pas.
Mais Billy Gibbons, moi je trouve que c'est un des meilleurs guitaristes du monde. Pourquoi il va nous envoyer des boucles en playback, quoi? C'est vraiment un truc de variette.
Stéphane,
je suis très en colère.
Non, mais je vois ça, dis donc. Oh, voilà. C'est ce début d'année. Dingue. Stéphane Sanseverino est avec nous. Alors, je veux qu'on parle de ton rapport à la promo, parce que c'est toujours un petit événement quand tu viens à la radio, quand je te vois à la télé. C'est un passage obligé, c'est un moment marrant, c'est un truc que t'aimes bien faire de la promo, Stéphane.
J'aime pas y aller, j'ai toujours les boules d'aller faire une télé, je déteste ça. Non. Et une fois que j'y suis, je m'y sens bien, parce que faut bien dire ce qu'il y a. Il y a plein d'émissions pourries, mais les gens sont quand même tous sympas. Par contre, j'aime pas les grandes émissions où tu restes sur le plateau et eux continuent l'émission jusqu'à temps qu'ils aient, eux, des trucs utilisables. Tu vois, c'est-à-dire que quand on regarde une grande émission qui dure une heure, des fois, l'enregistrement a duré, non pas six, mais bien deux.
Et quand il y a des moments. C'était la spécialité d'Ardisson, c'était la spécialité de gens comme lui, ou même de notre copain d'ailleurs, Laurent Ruquier, qui fait des longues émissions aussi.
Oui, voilà, non, mais tout le monde fait ça. Moi, j'ai rien contre cette technique-là. Ce qu'il y a, c'est chiant à faire, quoi, parce que c'est long.
Ah oui.
Et puis moi, je t'avoue que je suis pas très à l'aise. À aucun moment, j'oublie qu'il y a 6 milliards de personnes qui regardent là. Tu vois, alors que là, la radio, pour moi, on est là, on est trois, là, dans le studio.
Ouais. On n'a pas dit qu'il y avait Véronique.
Ouais, Véronique est là, elle écoute et tout. Elle corrige un peu les fautes d'orthographe.
Oui, et de temps en temps, elle me gifle quand
je gifle. Avec un morceau de lard. Et là, moi, je me dis pas qu'on écoute, je le sais que les gens écoutent, mais il n'y a pas ce truc des caméras, le maquillage, le truc, le timing, tout ça. En plus, moi, j'aime bien jouer en live parce que je refuse tous les playbacks. Donc, jouer en live à la télé, c'est quand même un espèce de stress. Mais il y a plein d'émissions que je citerai pas qui sont ravis que tu joues en live parce que jamais ils sortent leur putain de micro. Parce que personne ne joue en live.
Ah oui,
donc quand tu dis à un technicien, tu dis, moi je joue en live, d'abord ils font, bah non, ici on fait pas ça. Puis après tu dis, oh s'il vous plaît, regarde, j'ai même amené les micros et tout. Et on discute, et après on arrive à faire de la musique acoustique et tout se passe vachement bien. Et ça se ressent quand on voit.
T'as appris à faire de la promo, à faire de la télé. Je veux dire, t'as quand même une aisance devant la caméra qui. Tu sais quoi, on a souvent parlé avec un copain commun qui s'appelle Bruno Bénabar de toi,
sur ta
manière d'être en promo. Où lui est plutôt, il a l'impression d'être en situation à comparaître, alors qu'il a l'impression que toi tu maîtrises bien le truc et que tu dis ce que tu veux en fait, et parfois n'importe quoi, parce que t'as pas envie de répondre, mais tu maîtrises bien le truc en fait.
Oui, ben c'est-à-dire que c'est juste un état en fait. Ben Bruno qui est acteur, il devrait au bout d'un moment quand même commencer à comprendre un peu ça. Je vais lui en parler la prochaine fois qu'on va boire une bouteille de Morgon.
il est venu jouer avec toi, tu m'as dit.
Oui, il y a pas très longtemps. Ouais, exact.
Bon bref, mais toi t'arrives quand même à pas te laisser impressionner.
Non, c'est-à-dire que ça m'impressionne pas en fait. C'est pas parce que les gens là qui m'interviewent sont très 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 connus, ambiance genre, je sais quoi, le Michael Drucker Show ou le Dev Show, le Mega Dev Show, ou tous ces shows là qu'on voit sur notre télé. Ça m'impressionne pas parce qu'ils sont très connus et qu'ils sont très à l'aise à la télé, etc. Et il y a plein de présentateurs, d'animateurs télé et radio qui sont vraiment avec. Toi, je fais un geste de la main, du coup j'ai pété une lampe.
C'est pas grave, c'est à Georges Lang.
À Georges 1.
À Georges Hank qu'on embrasse.
Et alors, qui, une fois qu'ils t'ont posé la question, regardent leur fiche et puis parlent avec un petit micro caché à la régie, etc. Enfin, qui sont absolument pas avec toi. Et moi, je cherche à capter le regard quand c'est utile, parce que par exemple, entre nous là, il n'y a pas besoin, parce qu'on se parle et on est là, on pourrait avoir la même conversation au restaurant ou chez Véronique, par exemple, devant un feu de bois avec
Véronique étendue nue sur une peau de bête.
Un lévrier mort, on dirait. Et alors, donc,
c'est bah, moi, beaucoup de peau sur un lévrier mort.
Oui, je sais, mais ça fait des jolis tapis plats. Si on sait enlever les os. Par contre, il faut un cutter.
Bon, bref, voilà. Tu vois, ouais, non, je comprends. Et t'as un média préféré, télé, radio, presse?
Moi, c'est la radio, mon média préféré.
Bon, j'ai hâte que tu reviennes sur RTL. On est en train d'essayer de voir. Ça serait chouette que ça arrive. C'est un bon souvenir. T'avais fait le Tour de France sur Radio France. C'était sur France Info.
Ouais. Alors, ça, c'était. Il m'avait proposé ça parce qu'il savait que j'étais un grand fan du sport cycliste.
Dis donc, j'ai vu que t'as un nouveau tête. C'est un vélo que t'as sur la main ou t'as
Ouais, sur la main. Oh, c'est pas nouveau, ça, c'est genre 2 ans, mais tu me regardes pas quand je viens. Ou alors j'avais les mains dans les poches, en fait. Parce que les tatouages que t'as sur les mains, quand t'as les mains dans les poches ou que t'as des gants, eh ben les gens ne les voient pas. Tu comprends?
D'accord, donc t'avais fait le Tour de France.
Moi, je suis un grand fan de vélo. J'ai été sur le Tour de France des millions de fois, invité par d'abord mes grands copains, dont l'ancienne équipe était avant Europcar, monsieur Jean-René Bernodeau, voilà, qui est un copain à moi, qui est un manager d'une équipe. Voilà, donc je vais souvent faire des tours dans leur voiture, et puis aussi l'organisation du Tour de France m'a gentiment invité quelques fois et tout, et puis moi je roule dès que je peux, dès que j'ai 5 minutes je vais faire une heure de vélo, dès que j'ai 5 minutes plus, hein. Et puis oui, j'en ai plein de super vélos, c'est un peu comme les grattes, hein, tu vois. Aujourd'hui tu prends le marron ou tu prends le rayé violet?
Ça aussi ça te parle, non? Dr Feelgood.
Ouais.
Down
bien sûr.
At the Doctors.
Ouais. Dr Feelgood, méga groupe qui invente ce qu'on appelle le pub rock. Voilà, c'est-à-dire.
Tu bois des bières et t'écoutes de la musique.
Et eux sont les parrains d'un genre de groupe qui joue que dans les pubs. Peut-être qu'ils sont payés avec des bières.
Docteur Feelgood sur RTL, donc présenté par Sanseverino qui cadre les intros, mais comment tu es fort à la radio.
Mais on pourrait même faire un jeu, par exemple, dans Docteur Feelgood, il y a Librio, c'est le chanteur, Wilco Johnson, le guitariste, qui sont les noms des deux autres musiciens. Mais les gens ne peuvent pas appeler, là, parce que c'est une émission, on n'appelle pas.
C'est une émission enregistrée, surtout. C'est une émission, on fait semblant d'être en direct, mais c'est enregistré.
Ouais, mais non. On est le jour qu'on est.
Faites pas les malins, parce que vous n'êtes pas à l'abri de le retrouver en direct, Sanseverino, un de ces quatre sur RTL. Ouais. Vous
allez voir, c'est si moi qui vais faire le journal.
Et dis donc, là, il commence à être tard. C'est quoi ton rapport à la nuit, Stéphane? Minuit 20, là, minuit et demi, tu dors un dimanche ou pas?
Alors, quand je suis en tournée, je dors pas, puisque c'est l'heure où ça fait 20 minutes qu'on est sorti de scène,
ouais,
avec mes collègues de bureau. Donc là, c'est l'heure où on est encore en train de faire les cons dans la salle. Et on va bientôt aller dans le bus, où on va déguster du pinard, par exemple, ou du bon whisky.
Là, c'est beaucoup. Quoi, c'est pour retomber?
C'est pour retomber un peu, parce que se coucher tout de suite après le concert, c'est un truc que j'ai déjà fait. Quand j'emmenais mes enfants, par exemple, en tournée, et qu'ils étaient très petits, il fallait que j'aille vite les foutre dans la couchette. Et généralement, il fallait que je dorme pas loin et tout, parce qu'ils étaient vraiment très petits. Donc là, je me couchais limite habillé comme sur scène, sans avoir pris de douche, etc. Donc, au
secours. Pauvre gosse.
Mais là, c'est l'heure où on n'est pas encore dans le bus, et où on va y aller. On monte dans le bus vers minuit et demi, à peu près, un truc comme ça, là. Ouais. Et puis là, on y reste jusqu'au départ, c'est-à-dire le départ du bus, il est à 1h30 ou 2h. Et puis après, quand ça roule, on reboit encore un coup ou deux, histoire de s'habituer au tangage. Et après, tout le monde va se coucher avant 2h quand même.
Ah oui?
Parce qu'on est, mine de rien, il n'y en a pas beaucoup qui sont nés en 70 dans mon équipe. si tu vois ce que je veux
dire.
Comment
il s'appelle ce type complètement dingue, le Vénitien, là, qui jouait de la contre?
JP.
Il est toujours là, JP?
Maintenant, JP, il n'est plus avec nous. Maintenant, il a un magnifique restaurant à Venise.
Mais oui, je sais ça, mais je croyais qu'il jouait de temps en temps avec toi.
Le Riviera, voilà.
Le contrebassiste de Stéphane du tout départ.
Ouais, voilà.
JP, qui était incroyable, Rital.
Ouais, absolument. Un grand beau garçon qui a eu jusqu'à deux restaurants à Venise, et maintenant il en a plus qu'un seul, et alors son restaurant, il n'a pas encore d'étoile au Gohemichto, mais il est au moins cité dedans, quoi.
Très bien, ça veut dire qu'il a du talent aussi quand il est derrière les fourneaux. Ouais, alors, revenons à la nuit, couché à 2h du matin, dormi dans le bus.
Ouais, dormi dans le bus, donc réveille à peu près à 8h30, 9h.
Ouais, quand même.
Voilà, ouais. Il y a deux familles dans le bus. Il y a ceux qui dorment quand le bus roule et ceux qui dorment quand le bus roule pas. C'est-à-dire quand tu fais 500 km, le bus roule toute la nuit. Ouais. Mais quand tu fais 150, le bus il roule et puis 2 heures après il s'arrête sur le parking de la salle. Et là il est 3h30 du matin.
Ouais, tu fais
et
un peu
si non, parce que moi par exemple j'aime pas quand ça roule pas. Donc ça me réveille que le bus soit stagnant comme une eau morte.
Et c'est comment une couchette de bus de tournée?
Bah c'est comme une couchette de... Alors autant il y a deux familles de dormeurs, autant il y a deux familles de couchettes. C'est-à-dire que souvent les chanteurs et les chefs, ils ont une espèce de petite chambre ounette qui peut ressembler à une chambre, j'ai un grand lit qui ressemble un peu à une chambre qu'on a dans un voilier, tu vois.
Ouais.
Dans un 12 mètres, là. C'est-à-dire que c'est pas très grand. Ça fait plus qu'un lit.
Un lit où tu peux te retourner.
Absolument. Et puis les autres ont des couchettes, comme des couchettes de bateau, avec un petit rideau. Il y en a qui ont des petites télés, des fois pas, ça dépend des compagnies de bus. Tu peux regarder une télé, mais comme la télé est à 4 cm de tes yeux, il faut aimer regarder les films de près, quoi.
Et alors quand t'es pas en tournée, Stéphane, la nuit, c'est plutôt un moment où tu fais dodo ou c'est un moment où tu travailles?
Je fais beaucoup l'amour.
Oui, non, mais c'est ta femme qui est fatiguée. Je fais beaucoup l'amour une fois aux deux parents.
Chez moi, j'ai tendance à faire à manger assez tôt, enfin, ou à co-faire à manger, parce qu'on fait ça à plusieurs.
Ouais.
J'ai tendance à me coucher, plutôt vers minuit et puis dormir jusqu'au.
Et pour créer, écrire, composer, c'est quand?
C'est dans les périodes où j'ai décidé que ça allait se passer. C'est-à-dire que.
Ah oui, ça c'est intéressant parce que c'est pas le cas de tout le monde.
Oui, absolument.
Tu sais,
sont pas très bien organisés. Ouais, en fait, c'est ça.
Non, mais on a souvent parlé, tu sais, avec des copains, ils me disent, bah non, moi j'ai peur de rater la chanson, donc je suis toujours en train d'écrire, quoi.
Ah, ouais.
Et toi, tu dis non, quand tu décides que.
Non, moi j'écris rien du tout en ce moment. Par exemple, en ce moment,
à écrire.
Ouais. Le programme à écrire, on peut appeler ça comme ça. Par exemple, en ce moment, on est en train d'écrire avec Cécile, ma chérie. Ouais. On est en train d'écrire un opéra dont le thème est qui de l'homme ou de la femme a le plus de plaisir, qu'on va jouer à Calais en 2017. D'accord, c'est un truc qui est déjà programmé. Et ben, comme on écrit les chansons tous les deux, en fait, on se casse en week-end, on loue un petit appart ou une petite maison et tout.
Ça, c'est pour faire des abus de biens sociaux sur la société.
Non, pas du tout. Non, on loue à nos frais une maison là, mais pendant 2-3 jours.
Ouais.
Et puis pendant
écriture.
Et puis on écrit toute la journée des chansons. On a des ex qui les gardent leurs enfants. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Non, on a une famille
surdécomposée, nous. On est limite en décomposition tellement...
Et quand tu as envie d'écrire, donc, tu te dis, voilà, bah, par
donc
exemple...
Donc, je fais ça, on fait ça ensemble, par exemple, pour écrire le prochain truc. Ouais. Sinon, moi, je dis, bon, ben, j'écris des chansons pour un nouvel album à partir de la semaine prochaine. Et puis voilà, je vais m'acheter des cahiers. Et puis hop...
Et t'as pas la trouille de la page blanche, de machin, de bidule
Oh non, j'ai pas de page blanche, moi. Mais ceci dit, ça veut rien dire. Hein. La page blanche, elle veut dire que tu restes longtemps sans écrire, c'est ça, et du coup ta page elle est blanche.
Surtout que t'as rien qui vient.
Moi j'ai rien.
Ça t'arrive ça? Ou alors si tu grattes et puis.
Non mais entre rien avoir qui vient et écrire que des trucs que tu gardes pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que la page blanche, ça n'existe pas pour moi. Parce que des fois, je fais de l'écriture automatique. Tu vois, je remplis des pages et des pages et des pages et des pages. Et après, dans ces pages-là, je vais chercher une phrase qui va être intéressante ou qui va sonner ou qui va m'amener sur un sujet intéressant. C'est la recherche du thème qui est avant tout le premier truc à faire dans une chanson.
Et ça part d'une phrase.
Et ça peut partir d'une phrase. Par exemple, tu écris en écriture automatique. Tu écris ce qui te vient à l'esprit. Donc hier, j'ai été dans un suppositoire et nous mangeions des bouteilles d'eau à force de parler avec des ordinateurs. Pourtant, il pleuvait des micros et à la fin, je suis revenu, j'étais une bague transformée en ticket de métro toute la journée, etc. Et puis, au bout de 4 pages de trucs comme ça, il y a un truc qui sonne ou qui se trouve être une idée, un thème général, un thème directeur pour une chanson. Alors, hop, on va rayer tout le reste, on va garder que ce petit truc-là. Et puis, je vais...
Après, tu
pars de ce truc-là, voilà. Donc, là, il n'y a pas de page blanche, parce que la page, elle n'est pas blanche. Il y a plein de trucs dessus, mais elle est remplie de conneries, quoi. Donc, et alors, qui c'est qui fait ça? C'est Bruno Cali. Lui, il fait genre 60 chansons, il en garde 10.
Oui, c'est ça.
Alors, ça veut dire qu'il en a donc 50 qui ne servent pas. Il aurait pu économiser du papier, mais il a eu besoin de remplir. Tu vois, il aurait.
Mais c'est une manière de se rassurer, de se préparer. Je sais pas comment ça marche en fait, moi.
Ah oui, ben c'est un peu comme quand tu prépares, je sais pas, ce que tu vas dire pour une émission. Tu dis bon voilà, j'ai envie de traiter tel sujet, tel sujet, tel sujet. Alors tu les prends, ce sont donc tes thèmes.
Ouais.
Et puis tu te dis bah là-dessus, je vais donner mon avis ou y aller de telle ou telle manière. Donc là.
Mais le plus difficile d'ailleurs, c'est de trouver l'endroit où tu places la caméra, c'est-à-dire comment t'en parles.
Exactement, ouais. Donc c'est l'angle et mais pour moi c'est le thème en fait, c'est-à-dire de quoi vais-je parler? Est-ce que le thème est intéressant? C'est-à-dire moi j'essaie de fuir les thèmes que les autres ont déjà utilisés parce que ça va se voir que c'est le même. Par exemple le rapport homme-femme, il est pas très intéressant.
Enfin, il y a pas 50 thèmes, Stéphane.
Si, il y a 50 thèmes bien sûr. Une évasion, c'est un thème. La chourave d'une voiture, c'en est un. Le rapport entre deux personnes. Hors rapport amoureux. Enfin, quand je dis le rapport amoureux, ça veut dire la chanson d'amour que je fuis, moi, mais qui a été magnifiquement fait par plein de gens. Par exemple, Cabrel, je trouve que c'est celui qui fait les plus belles chansons d'amour. Après, c'est que mon goût, hein, mais les plus jolies, les moins maladroites, quoi. Et puis, moi, les chansons d'amour, ça me rappelle ce qui se passe chez moi, en fait. Donc, j'ai pas très envie d'en parler.
Quelle fripouille. On va écouter San Severino maintenant, et ensuite, on va justement parler de cet album qui s'appelle Papillon. Je vous propose Voter Papillon.
Se passe dans les années 30, les cachots, le mitard, les sanctions. Vers 1944, j'ai eu ma libération. Je m'appelle Henri, mais on m'appelle Papillon. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, là je commence l'histoire par la fin. Accusé à tort aux assiettes, un jour j'ai pris perpète. Transporté à Cayenne, à l'autre bout de la planète. Juré sans tranquille à Paris, depuis qu'ils m'ont envoyé ici. Je dirais pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si j'étais Jésus-Christ, mais moi, je suis Papillon. Je dors les fers aux pieds, la nuit pendant qu'ils sont sous la couette avec maman. J'y moisirai pas longtemps, à la première occasion. Je flinguerai ces couillons, je m'appelle Papillon. Alignés sur leur banc, remplaçons-les par des bons truands. Les peines seraient moins longues aujourd'hui dans les prisons. Il y aurait moins de monde Votez Papillon. Forçats sont musclés, grands, costauds, beaux, bronzés et tatoués. C'est à l'encre de Chine à l'aiguille qu'ici on fait la bousille. Il n'y a pas de salon, non, 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 c'est pas de la décoration. Le bagne de Cayenne, c'est pas la Costa Brava. Quand on y reste, c'est qu'on y crèvera. Certains comme moi n'ont jamais lâché, d'autres ont abandonné. C'est la mort qui viendra un jour les délivrer. Et les assassinats, j'ai pris la plus grosse vague et voilà. Sur un radeau de noix de coco, j'ai fait la belle sur l'eau. J'ai nagé vers ma vie, tu es libre papillon. J'ai nagé vers ma vie, tu es libre papillon.
Stéphane Sanseverino, Votez Papillon sur RTL. Alors, bah voilà, ça c'est le single tiré ouais. De ce nouveau concept qui est arrivé à la fin du mois d'octobre, qui arrive en BD dès demain,
ouais, exact.
Et que tu vas porter sur scène. Alors d'abord, Papillon, on connaît tous l'histoire avec Steve McQueen.
Oui, exact.
Et le film, qui raconte l'évasion de ce forçat au bagne. D'ailleurs, j'ai appris en écoutant, je ne sais pas si c'est vrai, en écoutant ton album, que c'est peut-être pas lui qui était coupable.
Ah bah lui, dans son bouquin, même dans le film, d'ailleurs, on le sait, lui, il se dit innocent. C'est-à-dire, tout part de là.
Oui, mais toi, tu vas un peu plus loin en disant qu'il a été dénoncé par un autre michto.
Oui, parce que c'est vrai, en fait. Il a été dénoncé par un autre mec, à mon avis, et au sien, d'ailleurs, parce que c'est chez lui que j'ai repiqué ouais. cette idée-là, c'est que pour protéger un autre barbeau qui devait être copain d'un flic ou d'un juge ou un truc comme ça, il lui a dit, écoute, on va pas te... D'accord, t'es pas inculpé, mais par contre, faut que tu balances quelqu'un. Donc c'est un mec qui devait avoir certainement une histoire avec Papillon et qui a dit bah voilà c'est lui quoi. C'est
comme si, donc Papillon, histoire vraie d'un homme qui est parti au bagne, vraisemblablement.
Oui. Enfin c'est un récit. Attends, je te reprends Eric parce que c'est le récit. Je sais pas si c'est une histoire vraie. C'est le récit d'un gars qui se dit innocent. Voilà. On ne sait pas si c'est vrai.
D'accord.
Il se pourrait que ce soit faux ou vrai. Après,
d'accord.
Moi,
en tout cas,
on part de ce récit-là. On part de ce récit-là.
Ouais.
Alors, lui, il part au bagne pour donc perpétuité. Mm. D'accord. Et quasiment dès le premier jour, il va s'évader déjà tout de suite. Mm. Il va se faire reprendre. Il est puni. Il se réévade, etc., etc. Ce schéma-là se reproduit pendant 13 ans. Et à un moment, au bout de 13 ans, c'est la dernière évasion, il ne va jamais être repris.
Ouais.
D'accord ? Donc c'est de 1930 à 40, presque 44, 43. Ouais. Et il n'est pas repris, il va vivre au Venezuela, et il va donc recommencer sa vie au Venezuela. Et en 68, un jour, il va prendre des cahiers, puis il va réécrire tout ce qui s'est passé pendant ces 13 ans de détention. Uh-huh. Donc vrai ou faux, après,
D'accord.
On ne sait pas. Et il va en faire... un livre,
il va
envoyer
succès.
Ça à Robert Laffont, qui est en train de monter une édition, une collection qui s'appelle Récits,
ouais.
Voilà, donc Récits plutôt vrai, a priori, ouais. Et ce livre va sortir, et ça va être genre grosse vente, énorme best-seller de Robert Laffont, et puis peu de temps après, ils font un film,
ouais.
Lui va sur le tournage et tout, donc grâce au succès de ce livre, il peut revenir en France, gracié par la force de la littérature, en fin de compte, du succès. Du pognon quelque part et il va le film se monte avec Dustin Hoffman et Steve McQueen et lui meurt genre la veille de la première etc un truc comme ça il va sur le tournage mais il verra pas le succès du film.
Oui.
Qui, à mon sens, n'est pas si mythique que ça. Le bouquin est quand même 15 fois mieux.
Mais c'est Steve McQueen qui est mythique, non
Steve McQueen,
le casting est dingue.
Ouais, le casting est dingue, il y a deux mecs.
J'ai pas lu le livre à ce moment-là,
aussi. Non, mais le truc, c'est que c'est vraiment un exercice de cinématographique, ce film, puisque dans le livre, il y a plein de gens qui participent. Ils sont toujours... C'est toujours une équipe différente avec laquelle Papillon s'échappe. Et dans le film, c'est un peu toujours un peu la même.
D'accord.
Voilà, donc deux gars qui est le rôle de Dustin Hoffman. Alors, il fait pas tant de trucs que ça dans le livre. Toi, mais il y en a plein d'autres.
Toi, t'en fais un disque de 14 chansons.
Pour rétablir la vérité.
Non, mais d'abord, pourquoi on a écouté d'ailleurs le style musical. Hein, donc ça revisite tout ce que t'as fait depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a un peu de manouche, mais il y a du bluegrass, il y a aussi du banjo qui me fait penser à la musique du Mississippi. Enfin, tu vois tout ce que t'as fait ces
exactement,
derniers temps,
musicalement
en tout cas pour expliquer aux auditeurs. Et puis cette histoire que tu as réécrite en chanson, qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire?
Je voulais faire un disque sur un livre et j'en avais deux à ma disposition. Papillon, c'était le plus court. Et alors j'ai choisi Papillon. Et en fin de compte, c'était celui que non, mais je te jure, l'autre livre que j'avais, c'était Sotry. C'est un bouquin de Cormac McCarthy. C'est un gros pavé comme ça qui parle d'un hobo, un espèce de SDF américain des années 50, qui va vivre plein de choses à travers son alcoolisme, qui va guérir et des fois peu et des fois pas, etc. Donc il va passer par tout un tas de trucs, vraiment la vie des hobos, quoi. Et Papillon, j'avais lu ce bouquin à peu près 7-8 fois avant, dans ma jeunesse.
Pourquoi ça te fascine autant, cette histoire?
Parce que c'est un livre d'aventure. En fait, moi j'aime bien les comme dit ma femme, t'aimes bien les bouquins de garçons, quoi. C'est-à-dire les trucs d'aventure.
Aussi, voilà,
c'est ça. Voilà. Pareil. Les films de gladiateurs, même, souvent.
Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs?
Et alors.
Est-ce que tu aimes quand les. Enfin, bref.
Quand les gladiateurs prennent leur douche. Donc.
Lorsque ton chien. Enfin, bon, bref.
Donc moi j'adore ce...
Y a-t-il un pilote dans l'avion, hein, pour ceux qui auraient
pas suivi? Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'on fait des références à des trucs qu'on dit pas.
On fait des private jokes, mais
Mais on n'est pas sur TF1 à la fois, parce que là on explique. Il y a un petit truc en dessous qui dit ce qu'il vient de dire fait référence à, et on entend du public qui rit. Là on peut pas faire ça, parce que... On est obligé de s'auto-faire rire.
Bon, ben voilà. Et donc.
Ce livre, je le connaissais, j'avais vu plein de fois. Je l'avais lu plein de fois parce que.
Aventure.
Il y avait toujours un truc que j'ai oublié d'une année sur l'autre. Il se passe un truc, toutes les lignes, il y a une aventure.
J'ai envie de le lire, en fait. Mais c'est marrant parce que j'ai écouté ton livre. J'ai reçu.
J'ai écouté ton livre, c'est ça que tu as dit.
J'ai écouté tout entendu. J'ai écouté ton disque. Et en fait, je suis resté bloqué au bureau pour écouter toute l'histoire. Donc c'est chouette parce que si vous rentrez dans le disque, en fait, vous allez l'écouter en intégralité. Et écoutez-le dans l'ordre, parce que du coup, ça vous raconte vraiment une histoire.
Ah bah oui, là, c'est une bagarre contre le MP3, cet album, puisqu'on ne peut pas télécharger qu'à part... Voilà, c'est ça, on ne peut pas s'il y a du... Ou alors, il faut connaître l'histoire pour faire le random, quoi.
Et puis, alors, il y a cette BD qui sort. J'adore les dessins qui ont été faits, donc, par ce monsieur, hein, qui s'appelle...
Sylvain d'Orange.
Sylvain d'Orange. Ça sort demain, et en fait, c'est un peu ta bobine, hein, on va dire.
Ouais, c'est moi, ils ont fait ma tête, en fait.
Voilà, la bobine de Stéphane, avec la...
Alors, jeune, avant... Au début, j'ai les cheveux noirs, début du livre. Et à la
blanc.
Fin, ils finissent un peu blancs.
Il a fait
je ne sais pas pour quelle raison.
Non, je sais pas non plus.
Non, il n'a pas fait tous les tatouages, c'est trop dur à faire.
Parce que
les dessinateurs ne savent pas dessiner.
C'est-à-dire?
Non, c'est une blague.
Bon, tu m'as fait peur.
Non, parce que c'est trop petit, quoi, pour moi.
Sans Severino.
Et j'ai pas de papillon là, j'attends la fin de cette aventure pour en faire un.
Sérieux?
Ouais.
Et tu vas le faire.
Puis j'ai pas de place parce que là j'ai déjà des trucs ici.
Alors
faut
combien de tatouages?
J'en ai plein, je sais pas, j'en ai genre 40, un truc comme ça là. Et alors il faut que je trouve une place pour faire un papillon, mais un vrai papillon de bagnard, pas le papillon d'Enrico Macias, quoi.
marchera jamais, ce truc-là, Stéphane.
Ça, Django, c'est un mec qui n'a jamais su jouer une note après l'autre. Tout était monté à l'ordinateur.
Au sampleur.
Au sampleur.
Au sampleur, voilà. Ouais.
Et alors, je ne sais pas pourquoi on lui donne tant de succès.
Ouais.
Et pourquoi tout le monde dit qu'il est si merveilleux et si gracieux, si, et sa musique est tellement une source de sourire et de bonne humeur, ouais. Alors qu'il ne savait pas trop jouer, en fin de compte.
Mais pas du tout. On vient d'en avoir la preuve.
Exactement.
Django, c'est avec ce style de musique qu'on te découvre, Stéphane.
Ouais, ouais.
Mais c'est pas ton éveil à la musique. En fait, ton éveil à la musique, il arrive avec quoi quand t'es tout petit, toi ? D'abord par le voyage, hein, tu voyages beaucoup avec ton père.
Ouais, exact. Et j'entends plein de musiques différentes alors que la world music n'existe pas en France.
Ah oui,
à
toi,
l'époque,
tu découvres,
sur
en fait.
RTL, on écoute Michel Thor un peu.
Et Michel Sardou aussi, beaucoup.
Et Michel Sardou.
Michel Sardou.
Michael
beaucoup.
Dussard.
Oui.
Et alors, on écoute ce genre de musique-là, quoi, qui, moi, me gêne pas, puisque je ne l'écoute pas. Mais nous, à l'étranger, on écoute la musique du coin. C'est-à-dire qu'on va au Mexique, en Bulgarie, partout, et on écoute la musique qu'on...
Donc la musique zigane, la musique mexicaine,
voilà,
locale.
Exactement. Alors, sauf que déjà, dans les années 70, l'Amérique, elle nous obligeait à écouter sa musique pop dans le monde entier.
D'accord.
Alors qu'on n'entendait pas forcément de musique française en Bulgarie, sauf que oui, un peu quand même, à cause de Mireille Mathieu.
Non, Sylvie Vartan.
Et Sylvie Vartan, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, les voyages, ton père était ingénieur,
ouais,
dans
il
le
était,
papier,
mon père, il est chef de chantier dans les usines qui fabriquent du papier.
Ouais, d'accord.
Et... Donc, il arrive dans une forêt, il démolit tout, et ça fait un rouleau de PQ à la fin.
T'es con.
Voilà. C'est un petit peu grâce à lui qu'il n'y a plus d'oxygène.
Arrête,
sur la terre.
Le pauvre. Et du coup, tu restes longtemps.
Il n'écoute pas la radio à la store-là, mon père. Il ronfle depuis longtemps.
T'as des frères et sœurs ?
J'ai un frère, ouais.
Grand, petit ?
Il est plus petit que moi. Enfin, il est plus jeune que moi maintenant, parce qu'on dit plus petit,
oui.
Puisqu'il a 6 ans de moins que moi.
D'accord.
Donc, voilà.
Donc t'es l'aîné, tu voyages,
ouais,
avec les parents.
Ouais, exact.
Du coup, tu vas de quoi ? D'école française en école française ?
Non, je vais de cours par correspondance.
Ouais.
Non. C'est les cours par correspondance. On se débrouille pour trouver soit des organismes qui envoient des cours par correspondance,
ouais,
soit des fois
des cours, c'est
ouais, c'est ma mère, impitoyable, ma maman,
ouais. Ouais.
Tu peux pas tricher sur une dictée,
elle fait comme Véro,
elle fait des tapes,
voilà.
Et puis moi je voulais truander sur les dictées, sur les trucs comme ça, elle, tu vois, elle voulait pas une seule fois, très 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 intègre, intrichable,
ouais,
incorruptible, on l'appelait Elliot Ness, ma mère.
Et cela étant, ça t'a pas mal aidé dans l'écriture, parce qu'on a beaucoup parlé de ta musique. Il faut aussi parler de l'écriture. Comment ça arrive, l'écriture ? Ça arrive en même temps que la musique pour toi,
non,
Stéphane ? Elle est très alambiquée, elle est très compliquée, elle est très subtile, cette écriture.
L'écriture, elle arrive pour moi par mon manque de culture. C'est-à-dire que c'est parce que je connais pas Nougaro, et pas encore bien Béranger, et pas Brel, et pas tous les gens là qui font des. Et pas Brassens, que je sais pas quoi faire pour faire de la musique, que j'écris mes premières chansons. C'est-à-dire que, sachant que les premières reprises que je trouvais intéressantes, c'était avec mon premier groupe, tu vois,
ouais,
c'était de jouer des chansons de Renaud, de Béranger, mmh, des choses comme ça, là.
Mmh.
Et je trouve ça pas très judicieux de faire des reprises de ces chanteurs qui sont des chanteurs avec des caractères si forts que reprendre une chanson de Renaud, pour moi, c'est dur. Et de Béranger, encore plus dur.
Mmh.
Et tu vois, et puis je connais pas encore Nougaro, etc., là.
Ouais.
Très très bien, en tout cas. Parce que lui, il mélange des chansons un peu alambiquées avec des grilles jazz et des choses comme ça. Alors, c'est ce qui m'aurait intéressé un peu plus tôt.
Ouais.
Si je m'y étais intéressé un peu plus tôt, pardon, j'aurais chanté des trucs de Nougaro très vite, en fait.
Ouais.
Et alors,
t'écris des poèmes, mais quand même, ces poèmes, enfin, et ton écriture, elle est parfois tellement compliquée, tellement subtile. Je sais pas, c'est un don à la base.
J'en sais rien. Non, moi je suis inspiré de rien. Ce que je veux, c'est raconter une histoire d'une manière que les autres l'ont pas fait. C'est pour ça que je fuis la chanson d'amour. C'est-à-dire, je peux pas dire t'es belle, je t'aime, je suis dingue de toi et tout, tu me fous la gaule et tout ça, quoi. C'est des choses que je dis jamais dans une chanson. Et alors, pour pas dire des trucs comme les autres, je cherche des formes que les autres ont pas pris.
Ouais,
par
ouais.
exemple, faire une chanson sur les embouteillages, c'est pas...
Qui est la chanson avec laquelle on me découvre,
voilà,
au début des années 2000.
Exact. Je suis pas le premier à parler des embouteillages en général, mais tout le monde n'en parle pas tant que ça, quoi. Alors que...
Et puis on découvre aussi avec cette habileté à dire des textes très compliqués de manière très rapide.
Ouais.
Ce qui est un exercice de style dingue. Alors t'as un peu ralenti sur ça, bien que tu t'amuses à le faire
régulièrement. Oui, quand il faut, mais je fais plus un album entier de chansons rapides.
Mais c'était rigolo, ça. Mais pareil, ça, c'est quoi ? C'était trouver un style à toi ?
Ouais, c'était. Je suis un grand fan d'André Mainviel. André Mainviel et Bernard Lubat, c'est des gars qui ont fait fleurir le jazz français en 70 et 80. Ouais. Tu sais, c'est lui qui chante Indifférence, là. Avec Bernard Lubat, là. Bernard Lubat, encore un musicien proche de Nougaro.
Ouais.
Et André Mainviel, c'est le premier chanteur de jazz français des années 70-80 que je connais et qui chante où on s'emmerde pas, quoi. Tu vois, c'est pas un chanteur de jazz qui imite ce con de Sinatra, là.
Où, arrête, où c'est on super Sinatra.
Ah, mais moi, j'aime pas, moi. C'est trop sérieux, quoi. C'est trop sérieux, là. Le jazz, c'est une musique improvisée. Ça n'a pas été inventé pour faire... Well, does Reba Brown... Cause we're the... Dancing in the dark... Exchanging glances... You've been sharing love... Before the night would go... Et on entend tac 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 derrière, c'est la mafia qui tue des mecs.
Non mais, tu comprends? Et alors le jazz, en fait, c'est ça l'explosion de ta musique dans ta tête.
Oui, parce que c'est improvisé, que c'est libre. Et le blues, ça l'est tout autant. Le punk, ça l'est, c'est tellement libre qu'on n'a même pas besoin d'apprendre son instrument. Donc ça, c'est une forme
c'est
de liberté.
Comme ça que t'as commencé?
Oui, j'ai commencé la musique moi à 20 ans. C'est-à-dire, j'ai acheté une gratte et puis j'ai démarré les solos tout de suite. Alors c'était évidemment les premières semaines, c'était pas très très beau.
Et où est-ce que tu as appris ce maniement de guitare qui est manouche, qu'on qualifie manouche au début, c'est comme ça qu'on
fait. Ouais, mais non, mais moi j'appelle ça de la guitare swing. C'est-à-dire, on peut pas dire la guitare. Oui, évidemment, c'est. Merde, j'arrive plus à parler. Moi j'appelle ça la guitare swing. On peut pas dire la guitare manouche comme on dit pas la guitare gitane. On dit pas la guitare allemande.
La guitare
enfin,
Gaulois,
tu vois, c'est.
La guitare Balbourg.
Bah ouais, la guitare. Les manouches, ils font du jazz, en fait, ils font du swing. Et il se trouve que c'est une communauté de gens arrivés de l'Inde, du Nord, en 1888 000, qui sont arrivés en Europe en se partageant en deux ethnies. La première qui a été dans le Nord de l'Europe, on appelle les manouches. Ceux qui ont été dans le Sud de l'Espagne et de la France, qu'on appelle les gitans.
D'accord,
c'est ça, c'est les mêmes gens, en fin de compte. Enfin, ils viennent du même endroit.
Mais parce qu'on t'a souvent aussi catalogué dans cette catégorie de musiciens.
Oui, parce que j'ai fait mes deux premiers albums et mes trois premières tournées comme ça.
Ouais.
Et alors, ouais, tous mes premiers trucs, ils sont avec la guitare swing, quoi.
Ouais.
Et puis j'adore ça, mais comme Thomas, il est venu, il en
Thomas
a fait plein.
Ouais. Tu dis, je vais faire autre chose.
Moi, je me suis dit, tant mieux, il prend le flambeau, j'arrête.
Et toi, tu t'es mis à faire alors du bluegrass, hein, qui est
ouais.
La musique traditionnelle américaine quasiment.
Ouais, exact. C'est une musique qui est un mélange de swing et de musique irlandaise, ouais. et de musique country et folk.
Et là, sur
etc.
cet album, on entend justement, mais je suppose que c'est fait exprès, ce que j'appelle le son du Mississippi. C'est quoi? C'est le banjo qui donne cet esprit-là?
Oui, c'est le banjo 5 cordes qui fait ça là. Mais le banjo 5 cordes qu'on entend là, c'est le même qu'il y a dans Deliverance, par exemple, celui qu'on entend dans tout mon album. Et ça, ça vient des montagnes, ça vient des Appalaches, ça. Le bluegrass, c'était inventé en 1940 par Bill Monroe dans cette partie des États-Unis. C'est donc Kentucky et les montagnes Appalaches.
Ah, Kentucky, moi, je connais cette région, parce que c'est eux qui ont fait le Jack Daniels.
Voilà, bah tu vois que t'as des références à des trucs. Tu dis sans arrêt, j'ai aucune culture, je suis bête, tout le monde me hait. Non!
Non. On écoute Brassens ou Nougaro, Stéphane?
Le Nougaro. Si t'avais quatre boules de cuir, alors là, je peux pas trop demander non plus.
Regarde-moi bien dans les yeux.
Regarde, vas-y. Paf, prenez ça dans la gueule, voici une chanson de Claude Nougaro, avec du cuivre. D'ailleurs, cette chanson s'appelle « Quatre boules de cuivre ».
La première heure.
Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, ô déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune punch. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Ô déesse de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de champion. Box,
quatre boules de cuir et soudain de qui roule répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, box. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire. Boxe comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir.
Stéphane Sanseverino sur RTL a choisi quatre boules. Alors de cuivre, non.
Alors, c'est, normalement, c'est quatre boules de cuivre, c'est mais
il se gourre. On arrive à la dernière ligne droite de cette émission. C'est un questionnaire décalé. Tu vois, c'est un truc pour paraître un peu décalé.
D'accord. Okay.
Combien d'heures de sommeil par jour?
88. Non, 8. 8,
combien,
8
combien
tout simplement.
Combien de clopes par jour?
Une si je suis sous. C'est-à-dire, donc j'en fume une clope par jour.
T'as arrêté donc?
Donc je fume pas naturellement. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à fumer.
C'est comme
j'achète des clopes et puis dès que j'en a plus, j'oublie qu'il faut en racheter. Quand il y a des gens autour de moi qui fument, je leur taxe si j'ai bu un verre ou deux. Pour
ça c'est pas mal ça finalement.
Ah j'ai d'autres vices, mais celui-là, j'ai échappé à ce truc-là. Ce qui veut pas dire que j'aurai pas de cancer.
En parlant de vices, combien de verres d'alcool par semaine
Semaine? Ah ouais. Non, je peux pas dire. Par jour, c'est plutôt genre. Disons que je mange en buvant du vin, voilà.
Combien de séances de sport par semaine?
De 7 à 0.
Ah oui, t'es capable de faire du sport tous les jours quand
tu
fais du vélo?
Oui, exactement. Ouais. Mais le vélo, c'est un truc où tu peux pas t'arrêter. Comme la drogue, en fait. Bah, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes, tu recommences tout à zéro. Tu fais du vélo pendant un mois, par exemple, 4 fois par semaine. Si tu t'arrêtes, au bout de 10 jours, tu perds tout ce que tu as emmagasiné. Musculature, etc., force, etc. Moi, j'arrête pas de recommencer, parce qu'il y a des mois, je suis libre, je roule tous les jours. Puis après, je roule plus pendant un mois, deux mois.
Le bus de tourner en vélo, c'est
C'est crevant. Puis derrière, c'est pollué quand même, derrière le pot d'échappement.
C'est pas bête.
C'est pas facile.
Combien de sorties par semaine, Stéphane?
J'ai des enfants, ma chérie en a aussi. On sort assez peu, puisque étant d'une famille recomposée, comme on n'a pas nos enfants tout le temps, quand on les a, on sort
t'en
pas.
Profite, ouais.
Et quand on n'a pas nos enfants, on travaille. Ce qui fait que je vais sortir ou aller au cinéma peut-être 2-3 fois par mois maximum.
Voilà. C'est cinéma, pas de concert, pas trop de.
De concert, oui, un peu.
Festivals,
si, non, j'aime bien aller dans les petits festivals punk et les trucs où on va découvrir des jeunes gens qui jouent fort et tout et qui sont déjantés. Et voilà, des trucs où on apprend des choses.
Tu te rappelles de cette chanson qui s'appelle Djembe Man? C'est Djembe Mal, tu joues mal et en plus tu joues fort.
Ah non, je connais pas ce truc-là.
C'est les Fatal Picard qui
chantent
ça.
Ouais, d'accord, ok.
Combien de kilos en trop, Stéphane?
Je pense que j'en ai 5.
Ah ouais.
De 5 à 10.
Est-ce qu'il y a une personne à qui t'aimerais que rester coincé dans un ascenseur?
Ouais, ma femme.
Comment il est amoureux.
Il est trop sympa. Comme
comment il est amoureux. T'as des phobies, ascenseur, avion, voiture, être seul?
Je suis pas très fier en avion. J'ai des phobies. Non, c'est plutôt. J'ai horreur de changer les housses de couette. C'est plutôt ça, mes phobies. Ça, je déteste. Organiser les anniversaires des enfants, je le fais, mais c'est vraiment le premier des cadeaux. Parce que je suis pas fan non plus. Je pense que j'aimerais pas rester dans un cercueil enterré sous
vivant.
La terre vivant.
Ouais,
je crois que ça j'aimerais pas trop.
Est-ce que tu vois souvent le médecin? Est-ce que t'es hypochondriaque?
Non, je suis pas hypochondriaque. J'achète des médicaments, je les prends pas. Et je me fais pas rembourser pour pas faire le trou de la sécu, etc.
Oui.
Mais par contre, là je vais voir un cardiologue, mais c'est parce que je me suis cassé un ongle.
Très bien. Beaucoup de cicatrices?
Non, assez peu.
Et donc 40 tatouages?
Bah oui, c'est un tatouage, c'est une espèce de cicatrice. Hein.
T'as commencé à quel âge?
Non, j'ai commencé tard, plutôt vers 30, à me faire des trucs. Je me suis fait une espèce de poulbeau dans le dos, puis après j'ai fait plein de trucs, puis après je me suis fait tout un bras, puis après tout l'autre. Puis après j'ai attaqué les dessins d'enfants sur la partie qu'on a devant, de l'autre côté
les
du dos.
Les dessins de tes enfants sont tatoués sur ton corps?
Ouais.
Ah c'est cool, ça, ils sont fiers, non?
Oui, surtout que j'ai conservé des dessins de quand elles étaient petites. Alors, qui sont des dessins très très naïfs, quoi. Ouais. Et voilà, j'aime bien ces trucs-là. Et puis, ce genre de trucs. J'ai des trucs de Crumb aussi sur moi. De Crumb, tu vois qui c'est Crumb? C'est un dessinateur qui a fait. Lui, tu connais la pochette de Janis Joplin, là, où elle est, c'est en BD. Tu la connais pas, cette pochette-là? Bon, écoute, c'est un dessinateur Crumb. Tout le monde connaît, sauf toi. Ouais, C-U-R-M-B. Crumb, voilà.
Très bien. Très
tu regarderas sur ton ordinateur.
Très bien.
Ton Minitel, peut-être?
Mon Minitel. Bonne idée. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Bon, Stéphane, je vais te laisser le dernier mot de cette émission.
Ouais.
Non sans avoir rappelé que la BD. Il a presque réussi à te faire beau gosse, hein, quand même. Mais non,
je suis limite beau. Hein.
Ouais, t'es limite beau gosse.
Souvent, comme il y a la guitare, souvent on voit pas que
je suis beau gosse.
Que j'ai pas mon vrai poids.
Sans Severino.
Si, j'ai un truc à dire, cet album, il était enregistré en 4 jours en live.
Mais non.
Le disque. Donc, on a avait 4 jours pour faire ce disque, donc on a fait toutes les voix, tous les instruments en même temps, et on avait donc plusieurs versions de chaque chanson, et la version Voté Papillon là, c'est du pur live, c'est-à-dire que tout le monde est enregistré ensemble et on mixe, et voilà, on avait 4 jours pour le faire. C'est un truc dont je suis assez fier, parce que c'est très très beau.
Bon, très bien. Et donc la version album est sortie en octobre, et puis oui. Là maintenant il y a la BD qui sort.
Et il y a un disque évidemment dans la BD. Il y a un disque qui est caché dans une des pages.
Parfait. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut avoir les deux. Non, les dessins sont super. Et
Les costumes sont de Donald Cardwell.
Et Roger Hart pour les décors. C'est à toi de jouer maintenant. Je te laisse le dernier mot de l'émission. Je vais couper mon micro.
D'accord.
Et la seule chose que je te demande, Stéphane, ouais. C'est de finir par RTL. Il est 1h.
D'accord.
Voilà, à toi de jouer.
Bon, bah là, vous nous avez entendu pendant à peu près. Si l'émission a commencé à minuit, on a parlé à peu près pendant 1h. Donc, on est sur RTL et il est 1h.
Les informations sur RTL sont présentées par Bastien Eugène.